préparer en moins de 4 jours. Et donc, les féliciter pour leur détermination et leur courage. C'est des personnes qui sont venues, qui n'ont pas été convoyées, qui n'ont pas été payées, qui n'ont pas été habillées pour être là. Et pour, une fois de plus, manifester leur rejet d'une troisième candidature du président Ouad et défendre la plateforme du M23. Et donc, vous avez bien vu la physionomie des vaillantes troupes hier. C'était exactement la même physionomie que celle du 23 juin à la place Soweto. Et donc, je pense que nous pouvons nous féliciter vraiment de cet élan populaire, de ce regain populaire autour d'idéaux démocratiques. Parce que clairement, le 23 juin 2012, c'était un front du refus face à une tentative de ce que moi j'appelle un coup d'État constitutionnel tout simplement. Donc, féliciter vraiment la forte mobilisation du M23. De l'autre côté, c'est vrai, le pouvoir a mobilisé, il a fortement mobilisé. Mais bon, on dit que, c'est même pas on dit, moi j'ai vu, en rentrant de la manifestation du M23, l'Indiaganya, et je veux dire, c'était impressionnant. Donc, ils ont fait venir beaucoup de monde, pas seulement de Dakar, mais de tout le pays, de l'ensemble du territoire sénégalais. Le président lui-même leur a souhaité bon retour dans leur domicile au niveau des régions. Donc bon, c'est normal. Je veux dire, ils sont venus de tout le pays, ils ont été convoyés. Bon, on dit qu'ils ont été payés, ça, je ne sais pas trop. Mais ils ont mobilisé. Et ce que je dois dire, et je le souligne quand même pour le saluer, il y a quand même eu la baisse d'un cran dans le discours du président Ouad, qui nous a habitués à un discours va-t-en-guerre depuis le 23. C'est vrai qu'ils ont un peu un esprit de revanche, parce qu'à chaque fois, ils le disent, ils le ressassent. On a été surpris le 23 juin, mais il faut qu'on tienne notre revanche. C'est ce qu'ils ont essayé de faire hier. Mais je crois que ça, c'était peine perdue, parce que le 23 juin, de toute façon, est une brillante page de l'histoire de notre pays. Ils ne peuvent pas l'effacer, mais on salue le fait que le président a eu un ton un peu plus apaisé, une posture un peu plus républicaine, et il a quand même ouvert une fenêtre en termes de négociation, parce qu'il a accepté un élément important de la plateforme, à savoir que apparemment il dit pas qu'il va remercier Ousmane Gom, le ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, mais ça c'est Ouad, hein, je crois que il est incorrigible. Parce que demander comme ça à une foule, je veux dire, c'est quand même un mode de gouvernance qui est toujours très original avec lui, pour ne pas dire gênant. De me dire à la foule, je vais enlever Ousmane Gom, la foule qui dit non, 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 il dit bon, d'accord, je le laisse. Voilà. Alors que quand même, quand on est dans une république, les processus décisionnels répondent à des règles quand même un peu plus orthodoxes. Je le laisse, ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vais lui enlever l'organisation des élections, que je vais confier à quelqu'un de neutre, équidistant des partis. Il est clair que ce quelqu'un ne travaillera pas seul. Ça veut dire peut-être que on s'achemine vers la mise en place d'un organe indépendant qui va organiser les élections. Mais ça, bien sûr, on attend. C'est une promesse, c'est un engagement. On attend qu'il traduise de manière effective cette proposition dans les jours à venir. Donc voilà.
Amédouka, les partisans de Blaye Ouad voient à travers ce discours un discours de rassembleur, d'apaisement, qu'il a été moins vindicatif par rapport aux autres discours qu'il a tenu, notamment celui du 14 juillet. Mais ensuite, la proposition d'enlever Ousmane Gom aujourd'hui, qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème? On va vers il reste 6 mois des élections, mettre un premier ministre de l'Intérieur ou bien une autre personne qui va gérer les élections d'ici les 6 mois, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un report même peut-être de l'élection présidentielle, si on doit mettre tout ça en place, le procès électoral qui est déjà lancé?
Alassane Samba Diop, je veux d'abord vous remercier de votre invitation, ça faisait bien longtemps.
Je l'ai bienvenu.
Je veux également saluer Mme Kati Cissé-Ouan et saluer vos auditeurs. Je pense que je voudrais d'abord me réjouir, mais alors sans sacrifier à la mode, me réjouir de ce qui s'est passé le 23 juin 2011. Je considère que c'est la manifestation de la persévérance démocratique de notre pays. ce pays qui a toujours su régler ses problèmes, même si c'est sous forme de confrontation politique violente, mais tout en gardant, n'est-ce pas, une certaine maturité, une certaine sagesse. Et cela est à saluer. Donc je ne suis pas de ceux qui disent que le mouvement du 23 juin, c'est un épiphénomène. Non, il est l'expression de quelque chose de profond dans un certain nombre de lignes, de fractures, de forces qui travaillent ce pays et qui peuvent présager, n'est-ce pas, d'un bouleversement en profondeur de notre paysage politique. Alors, donc il n'est pas question de minimiser cela. Deuxièmement, vous me demandez mon sentiment sur ce qui s'est passé hier. N'étant pas, moi, dans un parti politique quelconque, n'étant pas tenu à une ligne de parti, je vais m'efforcer de dire simplement mon sentiment. La première chose, ce qui s'est passé hier, me réjouit fortement. Me réjouit fortement pour plusieurs raisons. Parce que l'opposition, la société civile, ont manifesté autour de l'idée que la Constitution serait gravement menacée et qu'il faut faire barrage à tout ce qui peut menacer cette Constitution. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le pacte fondamental qui nous lie, ce lourd pacte qui est la Constitution et qui est ce par quoi nous nous constituons en peuple ou en nation, que cela, il faudrait le protéger comme la prunelle de nos yeux. Cette opposition, donc, a manifesté, a redit cela. Le pouvoir a également manifesté, mobilisé, etc. Je pense que sa mobilisation a été un succès.
Absolument.
Et que ce succès-là, aucune rhétorique ne peut nier cela. De même que je me suis opposé à l'idée de faire du 23 juin un épiphénomène, je me refuse à dire que la mobilisation du PDS était un épiphénomène. D'accord. Et le fait que deux camps qui sont opposés, qui sont dans l'adversité politique, et je rappelle, et c'est très important pour moi, que le champ politique n'est pas un champ de guerre, n'est pas un champ de polémicité, c'est un champ d'adversité. C'est des hommes et des femmes qui, que je présume patriotes, et qui ne sont pas d'accord dans la manière de gérer. Madame Katisizewon me dit, Monsieur Dia, je ne suis pas d'accord avec votre manière de gérer. Je dis, mais moi, c'est ma manière de gérer. Mais nous pouvons nous entendre à partir de l'essentiel. Lors de l'exposition, je fais juste une parenthèse, de l'exposition de Kalidou Kassé, Mamadou Diop Décroix a été accroché par un journaliste qui lui posait une série de questions. Et à un moment donné, il a demandé, mais qu'est-ce que la vérité? Mamadou Diop Décroix lui a dit, mais ça c'est une question pour les philosophes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est vrai, c'est une question vaste, mais dans le champ politique, je peux proposer une définition, simplement que j'emprunte aux anglo-saxons. La vérité, pour moi, c'est ce qui est avantageux pour le pays de toutes les manières. D'accord. Deuxièmement, sur le discours du président de la République, je pense qu'il n'est pas bon de prendre le président de la République comme quelqu'un d'exceptionnel. Il est exceptionnel. Parce que chaque fois qu'il parle, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord. Mais ce discours, effectivement, rompt avec le discours du 14 juillet. Parce qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prends acte de ce qui se passe. Mais permettez-moi de vous dire, Ablaye Wade ne peut pas répondre comme Mme Katisizewon, par exemple, souhaiterait qu'il réponde. Dire, écoutez, je n'ai fait rien. Je suis un nulard. Tout ce que j'ai fait, c'est de n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Il ne peut pas faire cette réponse. D'accord. Parce que on ne peut pas humilier un chef d'État. Il va refuser cette humiliation. Mais en disant que il y a une manifestation, une revendication fondamentale de l'opposition qui est que Ousmane Ngom, n'est-ce pas, soit enlevé des élections, enfin, ne soit plus ministre de l'Intérieur. Ousmane Ngom, d'ailleurs, que je connais très bien,
qui ne gère plus les élections.
Je dis Ousmane Ngom, que je connais très bien. Je n'ai rien contre ce personnage qui est un condisciple depuis Saint-Louis. Mais c'est une réponse. C'est une réponse allant dans le sens d'écouter ce que disent les gens d'en face. Et que par conséquent, je pense qu'on ne devrait pas, devant chaque proposition du président de la République, avoir cette attitude de surdité, ce refus d'entendre ce qu'il dit, au motif que voilà ce qu'il dit, mais voilà ce qu'il sous-entend. Malheureusement, nous sommes dans un contexte où les arrière-pensées des uns et des autres, décrypter les arrière-pensées des uns et des autres, nous paraît plus intéressant que de prendre les gens au mot et de leur donner le bénéfice de la sincérité. Alors, je termine sur une petite chose. Pour la mobilisation des militants du PDS, je ne suis pas d'accord avec Mme Kati Sisséwon, de dire, c'est des Karindjagandjaï, c'est des ramassis de ceci et de cela. Pour une simple raison, on manque de respect par rapport à ces gens-là qui sont des citoyens. D'accord ? Ils ont le droit de soutenir telle ou telle personne. Donc je pense que ce n'est pas bon. Parce que si les gens du pouvoir aussi pourraient dire, mais c'est un ramassis de voyous et de bandits que vous avez. Et dans les deux cas, ils ont tort. Je considère que les gens étaient là-bas, ils sont pour diverses raisons et probablement pour soutenir le président Awad. Parce que c'est cela qui était le motif de leur déplacement. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui disent, mais voilà, que c'est des citoyens de seconde zone, qu'il y a des gens plus citoyens que d'autres. Pour être plus citoyen que d'autres, il faut être de ce camp-ci ou de l'autre camp. C'est des citoyens, comme tout le monde. Et je ne voudrais pas, n'est-ce pas, qu'on les insulte, n'est-ce pas, de manière inconsidérée. Ce n'est pas respectueux par rapport à eux. Ce n'est pas respectueux par rapport au peuple sénégalais, parce que c'est une fraction du peuple sénégalais.
Oui, mais Kadesi Sewon, est-ce que le fait que Maître Ablaye Wade ait dit qu'il va retirer les élections des maires de Ousmane Ngom est une offre de dialogue?
Oui. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un aspect important de... Comme je l'ai dit, c'est un élément important de la plateforme du M23. Mais vous me permettrez quand même, avant d'aller plus loin à l'endroit de M. Hamidou Dia, de lui dire qu'il ne faut pas qu'il me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Okay. Je n'ai jamais dit que c'était un ramassis de voyous, etc. Non,
non, non, ce n'est pas vous. J'ai vu les réactions dans la presse.
Les réactions dans la presse, c'est légitime. Mm-hmm. Et qu'on le veuille ou non, ça, c'est une pratique des partis au pouvoir.
Ouais, tout à fait.
Ils ont les moyens de l'État, mm-hmm. ils n'hésitent pas à les utiliser. Mm-hmm. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est des pratiques avec lesquelles il faudra que l'on rompe. Mais voilà, la réalité est que... Il y a une certaine façon de mobiliser les citoyens qui sont du côté du pouvoir, qui n'est pas toujours très républicaine, très démocratique. Mais bon, bref. Donc, c'est leur droit légitime de se rassembler et de manifester leur, j'allais dire, allégeance. Parce que c'est ça, en fait, leur allégeance au président de la République. Je suis désolée. Le discours du 14 juillet, et même hier... Tous ceux qui se sont succédés à la tribune, je suis désolée, ils ont eu des discours laudateurs envers le président de la République. Alors que je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation pour la sauvegarde des principes démocratiques dans ce pays. Pour revenir à la question de M. Alassane Samba Diop, est-ce que c'est une offre de dialogue? Il faut la prendre comme telle, parce que c'est un élément de la plateforme du M23. Si le président décide, parce que ça, c'est un élément important pour... l'organisation d'élections libres et transparentes. Parce que, rappelez-vous bien, en 2000, le président Wade était la figure de proue de l'opposition. Il a été à la pointe du combat pour créer les conditions d'une élection présidentielle. Voilà, exactement. Donc, le président Diouf a accédé à cette demande de l'opposition en mettant le général Cissé au ministère de l'Intérieur et même le général Nian également au niveau de l'ONEL. Donc, ça, c'est vraiment des acquis démocratiques importants. Et je pense que le président Wade ne devrait pas faire moins que son prédécesseur sur cette question-là. C'est bien, on le salue. Il a accepté de confier l'élection, enfin de confier l'organisation des élections à venir à une personne équidistante. C'est très bien. Donc il faudra que.
Mais est-ce que d'ici 6 mois c'est possible de faire ça?
C'est jouable, oui, je pense que c'est parfaitement jouable. C'est une question de volonté, tout simplement. Et c'est dans la mesure où c'est une condition majeure pour avoir des élections libres, transparentes et apaisées, il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Et ce n'est pas que ça. Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi le fait qu'il faut délivrer les cartes d'identité qui sont encore en souffrance au niveau des commissariats, etc. Des milliers encore de Sénégalais n'ont pas accès à la carte d'identité. Et c'est ça, c'est le sésame qui leur permet d'avoir leur carte électorale, leur carte d'électeur, pardon. Ensuite, une des exigences, ou au moins des demandes qui nous paraissent quand même fondées, c'est qu'il faut prolonger la période de révision exceptionnelle parce qu'encore beaucoup de gens ne sont pas inscrits. Donc, on le prend comme un aspect d'une proposition de dialogue, d'autant plus que ça aussi, c'est un élément de proposition du G6. Parce que rappelez-vous, c'est vrai que c'est le groupe du G6 est un peu noyé par les événements, parce que du coup, on a l'impression que, enfin, ils sont devenus un peu inaudibles. Noyé un peu par les événements, mais on le prend comme une offre. Et l'opposition attend justement qu'il y ait un signal fort, quelque chose de concret pour aller vers ce pas-là.
Mais il y a une autre question fondamentale, c'est celle de la candidature d'Ablaye Wade qui est posée sur la table aujourd'hui. Uh-huh. Certains disent qu'Ablaye ne doit pas se présenter parce qu'il va violer la Constitution. Lui, il la maintient. Comment insérer un dialogue à travers cette histoire bien précise, Amadou Dia?
Bien, la candidature du président de la République fait problème. Et il est normal qu'il fasse problème. Et il est normal que les gens débattent de ça. La question, Alassane, c'est de savoir si la candidature de Wade est recevable ou pas recevable. Nous avons des positions, n'est-ce pas, dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que c'est une question qui ne mérite pas d'être posée? J'ai dit oui. Mais ce que je crains, si on ne cherche pas à débloquer cette situation, c'est qu'on dise, voilà, il ne va pas être candidat, je suis prêt à mourir pour qu'il ne soit pas candidat. Et d'un autre côté, il va être candidat, je suis prêt à mourir pour qu'il soit candidat. Et quel est le résultat? Dans les deux cas, quel est le résultat?
C'est ça le problème qui est posé aujourd'hui. Si Ablaye Wade est validé, il y aura des gens qui seront contre. S'il est invalidé, d'autres seront contre. Comment sortir de ce guépier?
Alors, je fais moi ce que je considère être comme une idée comme ça que je lance.
Allez-y.
Voilà. Je pense que cette candidature d'Ablaye Wade est soumise à plusieurs facteurs. Un, Ablaye Wade a présenté sa candidature. Il faudrait que, comme il dit, que son parti valide cette candidature, que son parti...
Il a l'intention d'être candidat.
Voilà, il a l'intention d'être candidat. Il faudrait que son parti l'investisse pour faire cela. C'est à son parti d'apprécier si Ablaye Wade doit être leur champion. Mais ça, c'est de leur responsabilité. C'est à eux de dire, c'est notre champion, c'est le seul champion que nous avons. Deuxième étape, que le Conseil constitutionnel dise que cette candidature n'est pas valide ou qu'elle est valide. Alors, sur ce plan-là, on est républicain, on n'est pas républicain. Si on dit que le Conseil constitutionnel est l'arbitre, il faudrait attendre. J'entends dire, mais là, on n'attend plus l'avis du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on veut la confrontation. Voilà. Mais qu'est-ce qui va gagner dans cette confrontation? Moi, honnêtement, que la candidature d'Ablaye Wade soit validée, par exemple, c'est pas, et que cela évite que nous soyons, même si on pense c'est anticonstitutionnel, hein, et que cela, même si on le pense, et que cela évite le pays d'être dans une situation inédite, avec des conséquences que personne ne peut prévoir. Moi, je dis, laissez le président Ablaye Wade, en ce moment-là, être candidat. Que les élections se déroulent à échéance parce qu'au-delà du Conseil constitutionnel, le seul grand juge, c'est le peuple. Soit Ablaye Wade est dans un état d'impopularité tel et il va être battu s'il y a des élections, mais soit le peuple continue à lui donner confiance, il va être élu, même s'il a 100 ans, 120 ans, en ce moment-là, si on est mécontent, c'est le peuple qu'il faut dissoudre. Et je pense que pourquoi les uns et les autres ne se disent pas, même ceux qui disent, mais c'est une candidature irrecevable, on ne peut pas se crisper là-dessus. Parce que se crisper là-dessus, c'est empêcher qu'on puisse avancer. Moi, mon idée, mais que les élections aient lieu, et le vrai combat, c'est de combattre pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et démocratiques, n'est-ce pas ? Et que le meilleur gagne, et que ce soit le peuple qui soit une fois de plus victorieux. Et ceci aussi, sur le plan intellectuel, est plus confortable pour moi. Si l'on considère que le président de la République aujourd'hui n'a aucune popularité, si on considère qu'il est rejeté par le pays, mais le pays va trancher. Mais c'est quand même plus réconfortant qu'un Ablaye Wade qui partirait sans être battu. Il ne serait pas battu dans ces conditions-là.
Comment partager cette idée?
Enfin, moi, je ne suis pas pour qu'on laisse le président Wade aller, jusqu'à se présenter à l'élection de 2012.
Pourquoi?
Mais parce que, du point de vue du droit, il a épuisé ses mandats. Mais bien sûr, vous me direz que ça, c'est un avis contre un autre. Mais je crois que quand même, il y a beaucoup de facteurs qui militent en faveur de cette position que je défends. Beaucoup de constitutionnalistes estiment qu'il n'a pas droit à un troisième mandat, il n'a pas le droit d'être candidat, y compris même des juristes qui sont dans son parti. Maître Massornakan l'a dit la dernière fois. Doudoundo, il l'a dit la dernière fois. Et c'est pas des membres de son parti.
Mais est-ce que pas des moindres. Dans une situation compliquée, au moment où certains qui sont avec Ablaye Wade disent qu'il doit se présenter court, d'autres qui disent que non, qu'il ne doit pas le faire parce qu'il va venir la Constitution, on sera dans une impasse.
Mais c'est clair qu'on sera dans une impasse. Et c'est là où, justement, la sagesse du président Wade doit prévaloir. Parce que, qu'on le veuille ou non, le président Wade a quand même créé une situation d'impasse dans ce pays. Il l'a créé d'abord au sein de son parti, parce que, rappelez-vous, on a toujours dit au niveau du Parti démocratique sénégalais, le président Wade, c'est la seule constante. Mais est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire que même au-delà du caractère même blasphématoire pour moi, parce que la seule constante, c'est Dieu. Au-delà du caractère blasphématoire, c'est que ça a eu comme conséquence également que le président ait fait le vide autour de lui. Et les gros problèmes qu'on a aujourd'hui, parce que toutes les personnes qui étaient susceptibles d'assurer la relève en termes de leadership au sein du PDS ne sont plus avec lui. Et il s'est arrangé à les mettre dehors, à les pousser à la porte. Et les problèmes aujourd'hui du Sénégal, c'est que après l'élection de 2007, je crois que la machine de la succession dynastique a été mise en branle. Et la réalité, c'est que le plan ABCD du président, c'est son fils. Quand lui-même, il dit « Après moi, c'est le déluge, après moi, c'est le chaos », je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Comment est-ce qu'un homme intelligent peut tenir ce genre de propos? Je ne vois pas une personne crédible, susceptible de me remplacer dans ce pays. Mais c'est un manque total de respect.
Dans l'interview qu'on a lu dans le journal La Croix, c'est quand même précis. Le président dit « maintenant ». Il n'a pas dit « après les élections ». C'est important de préciser le mot « maintenant ». Il dit « quand je quitte maintenant, maintenant, c'est le chaos ». Il a raison, quelque part. Il doit aller aux élections.
C'est-à-dire que...
C'est important de préciser les mots qu'on utilise pour que ça soit clair.
Je suis d'accord. Non, ce qu'il dit, non, parce qu'on ne lui demande pas de partir maintenant.
Excusez-moi. Il y a eu Wade dégage.
Mais Wade dégage. En fait, Wade dégage, c'était vraiment... Bon, c'est clair. À Soweto, il y a des gens qui étaient en train de dire... Parce que bon, il y a encore le syndrome de la place Tahrir, la Tunisie, etc. et tout. Mais je veux dire, à la limite même, c'est une volonté aujourd'hui presque légitime des peuples. Parce que moi, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire que si on veut réduire ces problèmes à une question juste légale, on se trompe de chemin. Parce qu'on aurait pu, par exemple, dire aux Tunisiens, aux Égyptiens, aux Yéménites, attention, ces présidents, ils ont un mandat qui court encore. Donc, vous n'avez absolument pas le droit de leur demander de dégager. Mais il y a eu un ras-le-bol. et le peuple était devenu absolument intenable. Ils ont dit, c'est tout de suite ou jamais, il faut que vous partiez. Nous, on n'est pas dans cette situation-là. Je pense que la position qui prévaut, c'est de dire que le président Ouad, il doit continuer son mandat jusqu'à son terme et ne pas se représenter, n'est-ce pas? Alors, le président Ouad, il est dans un parti, mais il faut qu'il s'arrange quand même à trouver un candidat autre que lui.
Il a son candidat. Là, il vous a dit que lui, il aimerait, même après sa mort, que Karim devienne
le président. Mais c'est ça la réalité. Parce que le problème, c'est que à partir du moment où on vous affuble du nom de... quand on dit que c'est vous la constante, il se dit, mais attendez, moi, je suis le seul qui suis capable de présider aux destinées de ce pays. Et l'âge aidant, il est quand même au soir de sa vie. On lui souhaite longue vie, de toute façon, mais il a quand même 86-90 ans. C'est quand même un homme d'un certain âge qui a droit à une retraite méritée. Et celle-là, elle ne sera pas anticipée, croyez-moi. C'est une retraite méritée. Mais excusez-moi juste, s'il se dit, si ce n'est pas moi, ça ne peut être que mon fils. C'est une manière aussi de perpétuer son règne. Mais il faut qu'il fasse en sorte que ce pays-là préserve sa stabilité et sa paix. Et il faut pour cela qu'au sein de son parti, ou même en dehors de son parti, qu'il réfléchisse à un autre plan B qui n'est pas son fils. Son fils, je suis désolée, il ne fait pas l'affaire. Et tous les jours que le bon Dieu fait, nous administre la preuve qu'il n'est pas capable de diriger ce pays.
Amadou Dia, Abdoulaye pense à son fils. Il pense que Karim peut le remplacer. Oui. Et dans l'opposition et ailleurs, c'est le seul qualifié du point de vue financier et économique pour diriger le Sénégal. C'est légitime pour lui, Abdoulaye, penser à son fils, non?
Bien. Je voulais dire, pendant que Cathy parlait, je pensais à une phrase qui est connue par tout le monde, de chez Corneille. Quand l'on âge, apprête aux hommes généreux, au bout de leur carrière, un destin malheureux. Que Abdoulaye Ouad, dont l'apport dans la démocratie, dans les avancées de ce pays sont immenses et que personne ne peut contester de bonne foi. Je le crédite de l'intelligence politique qui lui permet en toutes circonstances, peut-être pas à la vitesse que nous aurions souhaité, de décrypter. Parce que là, c'est le moment des lucidités nécessaires. Moi, je suis convaincu, peut-être que je me trompe. Je suis convaincu, peut-être que je me trompe, que si Abdoulaye Ouad arrivait à la conclusion sans ambiguïté dans sa tête que le peuple lui a tourné définitivement le dos, et sachant que c'est quelqu'un qui a un sens de l'histoire, en fait, qui est soucieux de sa postérité, il en tirerait les conséquences. Honnêtement. D'accord. Je sais aussi qu'il ne peut pas partir, n'est-ce pas, sous la forme de l'humiliation. C'est un vieux lion. Il est très intelligent, très combatif. Mais je tiens même que les gens ont un peu peur de lui. Parce que dès qu'Abdoulaye parle, Dieu, le diable a parlé. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Non, ce n'est pas un diable, c'est un politique remarquable, très intelligent et consort. Donc, je voudrais.
C'est un grand dribbleur, voilà. C'est pourquoi les gens.
Mais absolument, mais attendez, quand on fait la politique, on doit pouvoir faire cela. Hein. Bon, ça ne peut pas reprocher ça aux politiciens. Alors, je voulais donc répéter ma conviction. Si la preuve était faite dans la tête du président de la République, que sa représentation, n'est-ce pas, pourrait créer une situation que personne ne souhaite pour ce pays, je sais que le président aura la sagesse d'en tirer les conséquences. Mais ça, c'est un problème entre le président de la République et lui-même, qui, dans l'intimité profonde de sa conscience, tire des enseignements. Alors, si l'enseignement qu'il tire, c'est que je ne peux plus. Parce qu'il faut parler de la question de l'âge, il ne faut pas avoir peur de parler de la question de l'âge. On parle de l'âge du capitaine. Oui, le président est un vieil homme. Oui, il est préoccupé par cela, je pense. Je pense que c'est une question qui le préoccupe. Oui, il doit sortir par une... par la grande porte.
Alors, on doit encadrer la sortie du président.
Mais absolument.
Comment l'encadrer?
Absolument. D'abord en évitant les discours revanchards. Quand on va prendre le pouvoir, on va vous tuer, on va vous massacrer, etc. Mais personne ne peut partir sous ces conditions-là.
Il faut le rassurer.
Oui, absolument. Le rassurer, dire que Monsieur le Président de la République, ce que vous avez fait pour ce pays, vous n'êtes pas le seul, hein, il n'a pas le monopole de ça, est absolument incontestable. D'accord. Monsieur le Président de la République, nous savons si le relais va venir, alors, ça c'est encore une petite parenthèse. De toute façon, comme je l'ai exprimé, je suis heureux de voir tout le monde reprend cela, Ablaïwad est en train de fermer une longue séquence historique. Quand de toute façon, nous sommes déjà à demain. Parce que je ne pense pas que dans 5 ans ou dans 10 ans, nous serons là en train de parler d'Ablaïwad. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons là en train de parler des problèmes du pays. Alors, je veux me résumer là-dessus. Karim Ouad, remplaçant de Ablaïwad, même si c'est un projet que le président a eu à caresser, moi je reste aux citoyens. J'ai dit que aucun ne peut imposer aux Sénégalais quelqu'un. J'ai confiance en cette persévérance démocratique du pays. Mais si les gens n'ont qu'à aller aux élections, même Karim Ouad a le droit d'aller aux élections. Pourquoi l'en empêcherait-on? Il est citoyen.
Absolument.
Sénégalais comme tout le monde. Si tel est son bon vouloir, mais on ne peut pas lui dire, ben, tu ne te présentes pas. Maintenant, c'est le peuple qui va dire, on n'a pas envie de toi. On n'a pas besoin de toi. On a besoin de telle ou telle autre personne. Mais c'est cela, c'est le fait de confisquer la voix du peuple, la décision du peuple, moi, qui me paraît un peu gênant. Alors donc, en résumé, j'ai dit oui, l'âge du président fait problème, parce que fisque le poids des artères. Vous savez, je donne des exemples historiques, simplement. En 1940, quand il y a eu cette défaite et qu'on sort, on est allé chercher un vieil homme, mais absolument méritant, absolument courageux, le chemin des dames, etc., qui s'appelle Pétain. Admiré par tout le monde, notamment par le général de Gaulle. N'est-ce pas? Et Pétain, on a vu ce que ça a donné, c'est l'État français. Bien, voilà un exemple d'un vieillard qui finit mal. L'autre exemple, en 1918, les Français ont chassé le vainqueur de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le tigre. Vous connaissez celui qu'on appelle le tigre. Le tigre a été chassé par des élections est remplacé par quelqu'un de plus jeune que lui qui s'appelait Lebrun. Lebrun qui était un fou de première classe, c'est le fameux président qui est tombé du train et consort et qui dit au chef de gare. Bon. Donc, en réalité, ce que je veux dire là, c'est que cet exemple-là, on peut être d'un certain âge et faire preuve de beaucoup de sagesse, et que l'âge n'est pas forcément handicapant, n'est pas forcément un naufrage. Ah, voilà. Alors, donc, je voudrais terminé par cela. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à Mme Kati Sisséwone, je suis d'accord avec elle qu'il faudrait défendre la Constitution. Je suis d'accord avec elle que la candidature de Ouad fait problème, mais il ne fait pas l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas unanime à dire que la candidature de Ouad est irrecevable. Il y a des gens qui, avec leur argumentation, qui pensent que cette candidature est recevable. J'ai dit, devant ce débat, on ne va pas faire quand même la guerre pour cela. Nous n'allons pas quand même nous entretenir pour cela. Alors que nous avons la possibilité de dire au peuple de trancher. C'est pourquoi j'ai dit ça ne me gêne pas qu'Ablaïwad soit candidat en 2012.
Mais d'autres disent que s'il est candidat, il viole la Constitution.
Oui.
C'est ça le problème.
Attendez, Alzane, il faudrait bien, il faudrait bien que nous avancions, parce que depuis un mois, on est sur cette position-là. Voilà une proposition. Voilà une proposition que je suis en train de faire. Ablaïwad est en train de faire des efforts concernant Ousmane Nguem, c'est donc de donner des garanties pour des élections libres et démocratiques. Il faut continuer ce combat, il faut continuer cette pression. Il n'est pas possible qu'on puisse voler au peuple, n'est-ce pas, ses voix. Ça, c'est un combat qu'il faut mener de toutes ses forces, n'est-ce pas? qu'il y ait des élections transparentes, démocratiques et libres, dont le vainqueur serait incontestable. Ça, c'est un combat, à mon avis, extrêmement important. Nous sommes dans une situation de blocage aujourd'hui, n'est-ce pas? Certains disent Ablaye Wade part, d'autres disent Ablaye Wade reste. Alors, si on reste là, ça veut dire quoi? On veut dire que maintenant, battez-vous, tuez-vous, mettez-vous au nom de quoi? Alors que deux mois après ou trois mois après, mais le peuple va trancher. Moi, c'est ma position. Je sais bien qu'elle n'est pas populaire, mais un intellectuel ne parle pas pour être populaire, il parle pour dire ce qu'il pense.
Voilà. Non, mais moi je crois que, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse très attention à vouloir réduire aujourd'hui le débat politique à une question légale. Parce que de toute façon.
Il y a la question de la légitimité.
Oui, non, oui, tout à fait. Parce que de toute façon, le droit, tu peux avoir un même texte de droit, il va être interprété de mille manières, etc. Et qu'on le veuille ou non, c'est selon qu'on a envie d'instrumentaliser une décision que, etc. Bon. Mais je dis que si on réduit la question juste à ça, on s'enferme dans une tour qui est dangereuse. Parce que la question du mandat, d'un troisième mandat éventuel du président de la République, ce n'est pas seulement une question de technique électorale, de technique juridique, mais il ne faut pas déconnecter cela des réalités sociales. Je suis désolée, ce pays va mal. Il faut qu'on se dise la vérité.
Très mal.
Il y a, excusez-moi, il y a un ras-le-bol général. Je crois qu'un concept ne pouvait pas mieux résumer la situation sociale aujourd'hui que le concept de Yann Amar. Les gens sont fatigués. Tous les secteurs de ce pays sont en souffrance. Il faut être objectif. La crise énergétique, qui est une crise profonde, ce qui s'est passé le 27 dernier. Parce que je crois que quelque part aussi, le peuple sénégalais, ce n'est pas un peuple si difficile à gouverner, à gérer. Écoutez, pendant 11 ans, les gens ont été patients. Combien de fois on nous a promis la fin des délestages? Mais et c'est quelque chose qui va crescendo. Le 27, les gens sont sortis. Et ça, c'est très dangereux ce qui s'est passé le 27.
Absolument.
Parce que c'était moi-même qui vous parle. J'ai été prise dans une sorte de guépier vers Ouaka, où j'ai dû me réfugier. Ma propre voiture a été saccagée. Et j'ai failli, moi, être agressée physiquement. Il a fallu qu'on aille se réfugier dans des chantiers, Touba Almadi, là, de 20h. C'est à 2h du matin que j'ai pu accéder à mon domicile. C'est des situations dangereuses. Donc, il faut faire en sorte que le Sénégal ne bascule pas dans la violence. Donc, je dis, il ne faut pas déconnecter les choses de la situation sociale. La situation sociale, elle n'est pas fameuse. Et aujourd'hui, c'est-à-dire dire aux Sénégalais que toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, et ces difficultés-là, qu'on le veuille ou non, c'est sous le régime de l'alternance. Je ne suis pas en train de dire que l'alternance ou Wade est la source de tous les problèmes de ce pays. Je pense que ça, ce ne serait pas honnête. Et je salue d'ailleurs l'esprit des assises. Parce que quand on a fait... Moi, j'étais dans la commission des assises. J'ai participé à la rédaction du rapport final. Et tout. Mais sur l'analyse qu'on a faite, on est parti de 63 à nos jours. On a vu qu'aujourd'hui, il y a des problèmes structurels dans ce pays qui datent de l'époque du Parti Socialiste. Et c'est des choses sur lesquelles le pays devra opérer des ruptures certaines. Donc vous dites aux Sénégalais que le régime qui est à l'origine de vos problèmes criard aujourd'hui, le président qui en est comptable, qui en est responsable, il faut lui donner encore la chance de rester 5 ans. Mais les gens vous disent non, on a assez souffert, ça suffit, on veut autre chose. Et ça, je crois qu'il faut qu'on tienne compte de cet aspect-là. Les gens sont fatigués et ils sont prêts à en découdre. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'en appelle à la sagesse du président Wade. Hier, j'ai entendu quand on l'a appelé à la tribune, je crois que c'est Babacar Gaye qui a dit « Mandela ». Il a lancé en parlant du président Wade que c'est Mandela. Mais je suis désolée. Moi j'aurais été la première à être fière d'avoir un leader, un président de la République qui est respecté par le monde entier, qui reflète des valeurs que tout le monde respecte. Mais je suis désolée, il a encore du chemin à faire. Et nous l'invitons à faire ce chemin-là parce que moi, j'ai envie d'être fier de mon président. Mais
justement, en parlant de fierté sur le plan international, on a vu qu'Abdoulaye Wade, aujourd'hui, depuis que Barack Obama est à la Maison-Blanche, pratiquement le président américain évite Abdoulaye Wade. Il va recevoir bientôt Alassane Ouattara, qui vient d'être élu. Il va recevoir Mahamadou Issoufou du Niger, qui vient d'être élu. Il va recevoir aussi le président guinéen Alpha Condé, qui vient d'être élu, qui est un opposant historique. Mais Obama évite Abdoulaye Wade. Mais est-ce que le Sénégal a perdu sur le plan international ce crédit qu'il avait, Amadou Dia?
Au profit de qui? De Obama? Oui. Je ne comprends pas votre question.
Je dis que Barack Obama, pratiquement, évite de recevoir Abdoulaye Wade au moment où il reçoit les autres présidents de la sous-région. Pourquoi le Sénégal, la diplomatie sénégalaise semble être centralisée au niveau international?
Alors, est-ce que la diplomatie internationale...
L'image que les États-Unis ont du Sénégal aujourd'hui, est-ce qu'elle s'est dégradée jusqu'à ce que Barack Obama ne veut pas recevoir Abdoulaye Wade?
Bon, alors je vais vous répondre très franchement. Je n'en sais rien.
Les faits sont là.
Oui, les faits sont là. Barack Obama n'a pas reçu Abdoulaye Wade, mais est-ce qu'il a dit qu'il ne veut pas recevoir Abdoulaye Wade? Deuxièmement, que Barack Obama le dise même, le plus important, c'est ce que disait Kate, c'est ce que nous disons. Parce que ce n'est pas lui, quelle que soit la sympathie que nous avons pour lui, qui va nous indiquer la manière dont nous devons penser notre président. Tu sais, Alassane, c'est encore toujours se référer à l'étranger pour nous dire voilà ce qu'il faut. Ah, Barack Obama n'a pas reçu Abdoulaye Wade, donc c'est la catastrophe pour Abdoulaye. Non, pas forcément. C'est d'abord à nous.
D'accord.
Maintenant, les autres positions. Maintenant, pourquoi il ne l'a pas reçu? Très honnêtement, je sais bien que c'est que les analystes sont très forts. Très honnêtement, je n'en sais strictement rien. Est-ce que parce que Barack Obama pense que Wade est infréquentable qu'il le fait, je serais bien imprudent de le dire, je n'en sais rien. Ou est-ce que...
Si on pose la question, c'est parce que nos pays aussi, c'est des mandats internationaux.
Ah oui, mais est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon d'être
juste dans... Oui, c'est nos dirigeants qui nous amènent sur ces mandats internationaux.
Mais parce que tu sais, je suis très gêné par ce genre de choses-là, tu vois.
C'est la réalité des faits.
Chaque fois, on dit... Non, mais la réalité des faits, attends. La réalité des faits.
Concours derrière le MCA, concours derrière les financements américains.
Non, je comprends. Voilà. Que nous soyons...
mandats internationaux qui font qu'aujourd'hui,
le terme de mandat, là, c'est un peu... Oui, mais c'est la réalité. Nous sommes dans une situation de pauvreté. Nous sommes des pays pauvres, n'est-ce pas? Même s'il y a des efforts, c'est vrai, etc. Et qui fait que nous sommes dans cette relation de dépendance. Ce qui veut dire que là, vous posez un vrai problème. Notre lien avec les anciennes puissances ne sont pas encore coupés. Bien. Mais moi, ce que je voulais dire simplement, pourquoi Barack Obama n'a pas reçu le président Wade? J'ai lu que le président Abdoulaye Wade a tout fait pour être reçu par Barack Obama. Ce que je voulais simplement dire, ce n'est pas eux qui doivent nous donner l'onction de la bonne démocratie. Parce qu'une de nos postures aussi, par rapport à l'après-Wade, c'est d'être un peu plus fier de nous et de compter plus sur nous. Parce que les puissances, on l'a dit, ils ont leurs intérêts, ils ont leurs machins, mais ils ne sont pas d'un humanisme extraordinaire, ils ne sont pas d'une gentillesse extraordinaire. Ce n'est pas eux qui doivent nous donner le « là ». Maintenant que nous constatons qu'il nous donne le « là », ce n'est pas une raison de dire qu'il faut nous y complaire. C'est pourquoi j'ai dit, bon, pour Barack Obama, je ne veux vraiment pas faire de soupe d'Alagne en disant « c'est je n'en sais strictement rien, c'est pas... »
Peut-être mais, que Mme Katisizé pourra... Il travaille beaucoup sur la bonne gouvernance politique. Mm-hmm. Aujourd'hui, que les Américains soient ces présidents de la sous-région quand même, la Guinée, la Côte d'Ivoire qui vient de sortir d'une longue guerre, le Niger qui vient de subir un coup d'état électoral, constitutionnel, c'est quand même un problème, hein.
Oui, non, mais moi, je crois que... Bon, je suis tout à fait d'accord avec professeur Amadou Dia pour dire que moi, j'ai des réserves sur cette attitude de beaucoup de nos gouvernants qui cherchent à l'onction des grands de ce monde, etc. Et tout. Moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir la reconnaissance et...
l'onction de son pays.
Voilà, de son pays. Ça, c'est le plus important. Mais malheureusement, avec notre président, on n'est pas tellement dans ce cas aujourd'hui. Il est quand même dans une posture assez... dans une position assez inconfortable de ce point de vue-là. Et bon, moi, je crois savoir...
Parce qu'on constate que nos dirigeants sont plus sensibles sur ce que dit l'international par rapport à ce qui marche chez nous que ce qui dit le pape souvent.
Oui, et ça, c'est pas quand même quelque chose de... comment dire, c'est pas quelque chose de positif. Et donc... Mais je crois savoir que les relations entre les États-Unis et le Sénégal étaient plus ou moins tendues. Je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé avec madame, moi je dis l'ambassadrice, hein, certains me disent, on dit ambassadeur,
c'est la femme de l'ambassadeur.
Voilà, voilà exactement, mais bon, c'est un terme qui est genré maintenant, donc moi je dis madame l'ambassadrice. Donc, on se rappelle tous de ces scènes surréalistes, quand le président a amené les caméras et qu'il est en train carrément de faire passer un mauvais quart d'heure à madame Cébernica, c'est ça?
Cébernica, oui.
Exactement. Où il était très fâché parce que ils étaient en train plus ou moins de remettre en cause l'intégrité. Pas physique, mais l'intégrité, comment dire...
En parlant de corruption.
En parlant de corruption, voilà, tout simplement. En parlant de corruption, de mauvaise gouvernance, ça veut dire qu'ils ont une préoccupation par rapport à cela. Et je crois que, qu'on le veuille ou non, le Sénégal a accusé quand même un certain recul démocratique sous l'alternance. Ça, je pense qu'il faut que les gens en soient conscients. Et je comprends très bien qu'un Barack Obama ne veuille pas s'associer à quelqu'un qui, au lieu de faire des pas qualitatifs dans le sens du renforcement démocratique de son pays, fait accuser à son pays un recul démocratique. Moi, c'est la lecture que j'en ai. Et je crois également que la communauté sénégalaise aux États-Unis se fait quand même un peu fait résonance par rapport à tous les problèmes qu'il y a ici. Je crois que l'histoire de l'affaire Ségoura, que vous-même aviez réussi à révéler, toutes ces choses-là, il y a quand même eu une forte mobilisation de la communauté sénégalaise, les gens en ont parlé, et c'est quand même le Fonds monétaire international. Donc je crois que l'un dans l'autre, vraiment, les gens sont préoccupés par ce qui se passe au Sénégal, et je crois que c'est la raison pour laquelle... Et ce que je ne comprends pas aussi, c'est-à-dire pourquoi le président de la République fait tout pour se faire recevoir par Barack Obama, une poignée de main entre Barack Obama et son fils, on magnifie cela comme si c'était une sorte de passeport qu'Obama faisait pour Karim de pouvoir se présenter demain à l'élection. Tout ça, je trouve que c'est des choses puériles. C'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est les demandes sociales et démocratiques des Sénégalais auxquelles il faut apporter des réponses. Mais ça me paraît pas...
Le temps que nous avons parti est terminé, ça
déjà.
Passe vite, oui, déjà. Merci infiniment à Mme Kati Sisséwon d'avoir été avec nous dans cette émission pour analyser ce qui s'est passé hier, ce qui se passe dans le pays. Merci à Amidou Dia, écrivain et philosophe, d'avoir été avec nous. À la technique, Cheikh Diop, micro Alassane Samba Diop. Bon dimanche à tous.